Bienvenue à Sur la ligne, le radio podcast où tennis et les internationaux d'Australie sont commencés. Et nos Canadiens ont connu un excellent départ. On va analyser leur performance et regarder les tableaux des hommes et des femmes. On reçoit la directrice du marketing de Tennis Canada pour parler de la série de Netflix Breakpoint. Nicolas Richard, bonjour. Hugues Léger, bonjour. Les gars, êtes-vous prêts?
Ok, oui.
C'est parti pour le premier Grand Chelem.
Salut, salut, bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la ligne, le radio podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale. Je rappelle qu'on est disponible sur toutes les plateformes de balado. On est également diffusé au BPM Sport. On est en association avec, évidemment, l'Omnium Banque Nationale et Tennis Canada également. Hugues Léger, comment te portes-tu, te remets-tu de ton marathon Breakpoint dont on parlera un peu plus tard?
Moi, je peux pas me plaindre d'un week-end où je regarde des heures et des heures de tennis. Donc, j'ai passé un très bon week-end. Oui, je m'en remets très bien, mais j'ai déjà hâte au mois de juin et à la suite. On va en parler un petit peu plus comment on a vu cette série-là. Puis, début de l'Australian Open, courte nuit déjà entre dimanche et lundi, mais nos Canadiens nous ont donné beaucoup d'émotions déjà après même pas 24 heures de tournoi.
Nico, c'est un mois de janvier occupé, je suis convaincu pour toi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment dans le monde du sport. Séries éliminatoires de la NFL, également beaucoup de tennis là, avec le Grand Chelem. Est-ce que tu t'en sors? As-tu la tête sortie de l'eau?
Les choses se passent, les gars, ça passe tellement vite. Il me semble, hier, on parlait des feuilles à Hugues dans son manoir, puis là, on est rendu à l'Open d'Australie. C'est hallucinant comment les choses se passent, mais heureux qu'on soit enfin au premier Grand Chelem de la saison.
Dans son manoir, oui, bien effectivement. Messieurs, on ne perdra pas trop de temps parce qu'on a un très gros programme aujourd'hui. Puisque ce sont les débuts, les internationaux d'Australie ont commencé hier soir pour nous. Et j'ajoute à la conversation notre nouvelle collaboratrice, Isabelle Étier. Comment te portes-tu?
Ça va bien, ça va que j'ai mal à la cheville. Je me suis blessée en torse à la cheville durant mon interclub jeudi, que j'ai gagné. Mais que j'ai continué à jouer sur une cheville hier de Lourie. Donc là, ça a fait que je me suis fait cette nuit. J'ai pu voir du tennis dans mon insomnie et mes bobos, mais c'est correct.
Mais Isabelle est comme les vedettes de Breakpoint. Il y en a trois qui ont dû déclarer forfait avant le premier match au Australian Open. Donc, t'es dans la série là, des vedettes à ce moment du tennis, Isabelle.
Je vais être dans saison 2. Non, c'est pas vrai. C'est
écoute, on te le souhaite, Isabelle, tu le mériterais certainement, puisque tu es femme de hockey et de tennis. Rappelle-nous un peu là, rapidement, avant qu'on entre dans le vif du sujet, à quoi va ressembler là, ton rôle avec nous au courant de l'année 2023?
Tout simplement, moi, je suis une fan de sport, hein, de tennis, entre autres, en plus du hockey, donc j'amène un peu ma vision de la fan, pas l'experte par rapport aux résultats, mais aussi parler beaucoup d'inclusion, diversité, d'amener un peu le tennis à tout le monde, comme on dit, la démocratisation du tennis. Ça va être un peu ça mon rôle cette année, je vous jase, pas en tant qu'experte, mais en tant que fan.
Ben, en tout cas, on est tous des fans de toute façon, alors c'est un grand plaisir de t'avoir avec nous. On t'a pour une deuxième semaine consécutive. Si vous êtes un fan d'Isabelle Étier, ça ne sera pas comme ça à toutes les semaines, mais quand même, on te prend autant que tu veux, Isabelle. Et rapidement, là, qu'est-ce qui se passe du côté de femmes d'hockey?
On a le balado qui est là toutes les semaines, donc qui a repris depuis la semaine dernière. Bon, on a commencé l'année avec Stéphane Richer. Cette semaine, je vous le dis, ça va sortir demain, c'est Patrick Côté. Puis on a plein de beaux invités. Puis je commence aussi à leur parler un peu de tennis dans mes balados. Fait qu'à suivre, vous allez voir Femmes d'hockey et aussi de tennis.
En tout cas, merci beaucoup, Isabelle. Et puis, mesdames et messieurs, parlons de tennis, puisque c'est notre mandat, justement. Et à tout seigneur, tout honneur, commençons avec Félix Auger-Aliassime, qui a tripé peut-être un peu plus dur que ce à quoi on s'attendait contre Vachek. Nico, je commence avec toi. Tu as été surpris quand tu as vu le score?
En me réveillant ce matin, un brin, je dois vous avouer, on sent en même temps que Vachek n'est pas spécial, on en a parlé la semaine passée, ne plus rien à perdre. Jouait contre un gars qu'il connaît énormément, Félix Auger-Aliassime. Perdu le premier set, mais Félix, on le sait, Il est 6e tête de série, c'est pas pour rien. Revenu de l'arrière, j'ai vraiment hâte de voir. Là, on parlera de nos prédictions tout à l'heure, là, voir où vous placez Félix dans vos différents tableaux. Mais j'ai très peu d'attentes dans la mesure où il est légitime. Félix peut faire partie au moins du carré d'as. Mais en même temps, il a tellement prouvé au cours des derniers mois, il a tellement joué que je ne serais pas surpris non plus d'une éviction surprise au troisième tour, par exemple. Mais j'ai hâte de voir la suite des choses pour Félix et les autres Canadiens qui ont aussi très bien joué.
Ouais, le tableau n'est pas si mal jusqu'au quatrième tour, là, mais ben moi, je ne suis pas d'accord avec. C'est ironiquement, là, mais je ne suis pas d'accord avec toi que les attentes ne sont pas si élevées. Je pense qu'on a des attentes. Hugues, avant que j'aille à Isabelle, as-tu été surpris quand tu as vu le score?
J'ai vu le score sur mon oreiller, en fait, et quand j'ai vu les deux premiers sets, oui, j'ai été surpris, mais quand j'ai commencé à regarder le match puis réfléchir un peu, je n'étais pas si surpris que ça, en fait. Donc, Félix a souvent des entames de tournois un peu plus compliquées, donc son service n'était pas à son niveau habituel en début de match. Il y a eu plusieurs balles de bris qui ont manqué aussi, donc c'était des ajustements qui restaient à faire. Donc, finalement, oui, les deux tie-breaks après peuvent montrer un match serré. Vachek a fait un très, très bon match, il faut le dire. Mais ultimement, les 10 ans d'écart d'âge ont paru à la fin du troisième set et au quatrième set. Donc, je pense que la forme physique de Félix a fait que la logique a été respectée et que Vachek a été aussi loin qu'il pouvait sur ce match-là. Mais c'est une victoire un peu plus compliquée que prévu, mais logique, là, celle de Félix.
Ouais, il faut pas trop s'en faire avec ce score-là pour Félix, comme tu le dis. Pour à peu près n'importe quel joueur, le premier tour, c'est à peu près tout le temps un piège. Que tu joues contre un gros adversaire ou un adversaire un peu moins compliqué. Là, c'est deux personnes qui se connaissent bien. Oui. Félix, Vachek, il peut avoir vu des points, peut-être à travailler dans le tennis à Félix. Et
oui, exact.
Il a exploité que peut-être plus
exactement, que d'autres Alex, personnes. Exactement. Il avait aucun complexe au début du match, pas spécial, puis ça a apparu. C'est le jeune Félix que je connais depuis 15 ans, là. Il n'y a pas de problème. I got this. Il est vraiment abordé le match comme ça.
Vous aurez noté que j'ai demandé à Nico et à Hugues est-ce qu'ils ont été surpris quand ils ont vu le score? Parce que les trois, soyons honnêtes, on n'a pas vu le match parce qu'on se levait tôt ce matin et que le match était dans la nuit. Mais il y en a une parmi nous qui l'a vu. Isabelle, t'as pensé quoi de ce match-là? Toi, t'as fait le marathon toute la nuit.
Non, ouais, attends une minute. Je me suis réveillée, on s'entend. Je suis allée me coucher sur le chapeau. Je me suis réveillée parce que j'avais mal à ma cheville. J'ai mis de la glace et je me suis dit, ben, tant qu'à ça, je vais regarder le match. Tu sais, joindre l'utile, pas à l'agréable, là, mais à l'utile. Ouais. Je suis un peu d'accord. Vachek était autoritaire. Il menait les points. Il faisait des services volés. Il arrivait vraiment. Là, c'est lui qui agressait. Là, je ne sais pas si on peut dire ça, là, mais il était très. Il dictait les points, ça, c'est clair. Félix, son premier service ne passait pas. Beaucoup de fautes directes. Il essayait d'y aller. Il n'avait pas la précision qu'il y a habituellement. Là, tu sais, quand il touche la ligne, il essayait, mais il était tout le temps en dehors. Donc, c'est ce qui a fait la différence. Mais j'ai vu un Félix quand même jamais abandonné, comme pas comprendre ce qui se passait. Donc, puis ils se connaissent très bien. Puis Félix, il l'a dit à la fin, hein, c'est un ami, il connaît, il sait comment il joue, il connaît ses forces, ses faiblesses. Donc, combien de fois en début de match que Félix s'est fait avoir comme ça, il s'est fait prendre au piège par un Vachek qui était plus fin renard. Expérience. Ouais.
Ben, écoute, c'est sûr que. Puis Vachek, là, n'importe qui va vous le dire sur le circuit, c'est pas un gars facile à affronter. Oui. C'est un gars qui a un bon service, c'est un champion de Grand Chelem en double. Je veux dire, il est très, très complet. Puis comme on le disait, ben, il connaît très bien Félix également. Au prochain tour, messieurs, ce sera Molcan. Et là, ben, Molcan, lui, il est 53e mondial. Il peut dire, ah, ben, c'est un autre match accessible pour Félix. Vrai, mais attention, le seul match qu'ils ont joué un contre l'autre, c'est Molcan qui l'avait emporté. Et c'est l'année passée, ça se passait à Marrakech. Alors, honnêtement, Nico, ça sera déjà un autre bon défi pour Félix.
Oui, sur terre battue, ce match dont tu parles. Puis, tu sais, ultimement, tu l'as dit, dans des grands chelems, il y aura toujours des surprises. Est-ce que Félix va être la victime d'une surprise? Quoique Molcan a joué quand même du gros tennis contre Wawrinka, un match qui s'est terminé au bout de 5-7. La suite sera intéressante. Félix n'a pas un tableau. Tout dépendant de qui prend Félix, mais jusqu'à Cam Norrie, possiblement.
Ouais, avant c'est
jouable.
Tour.
Exact. C'est jouable pour Félix, parce qu'ensuite, ça pourrait être Corentin Moutet, notamment, qui est le mieux placé parmi les prétendants pour l'affronter.
Peut-être.
Oui, mais pour Félix, présentement, c'est de gagner ses matchs. Ce sont tous des matchs jouables. Chaque match, en cas de défaite, sera décevant, mais présentement, il doit juste jouer son meilleur tennis.
Ouais, non, exact. Alors, toi, est-ce que c'est un match qui t'inquiète le deuxième tour, Hugues? contre
non,
Mike? Hein?
Non, encore non. Une fois, je pense que Félix, on a souvent parlé, quand il passe son premier tour, il rentre dans un momentum habituellement. Je pense que ça va dérouler un petit peu plus facilement au deuxième, troisième tour pour Félix. Je ne suis pas si inquiet que ça. Et je pense que le fait qu'il ait été testé dans le premier match va lui servir pour la suite du tournoi aussi. Donc, je suis assez confiant pour la suite.
Ouais, s'il peut passer Malkan, bon, et peut-être comme tu le soulignais, il aurait peut-être un Corentin Moutet dans les pattes au troisième tour, Nico, et ben ça ferait en sorte que ce serait un match avantageux pour Félix parce qu'il est 4-0 contre Corentin Moutet. Ouais. Et puis, bon, après ça, au quatrième tour, ça pourrait se compliquer, là, t'aurais peut-être un Cameron Norrie, mais on le sait, Félix, c'est la bête noire de Cameron Norrie. Ouais. Bon, jusqu'à récemment, il l'avait jamais battu, même 5-1 les confrontations, là, alors ça, c'est intéressant. Après, par contre, messieurs, là, si on regarde un peu plus loin, là, si on extrapole, t'as un Tsitsipas, un Nadal et peut-être un Casper Ruud ou un Novak Djokovic dans les pattes en finale. Alors, à partir du quatrième tour, ça va se corser pas mal. C'était pas le seul Canadien en action hier. En fait, il y avait beaucoup de Canadiens en action hier soir, en fait. Il y a Chapeau également, Nico, qui était en action. Et ça a été quand même, à mon sens, en tout cas, un bon départ pour lui aussi.
Ouais, contre Lajovic. Et les gars, je sais pas pour vous, Isabelle, je prédis puis je m'attends à un très, très gros tournoi de Chapeau. Il est dû pour jouer un gros grand chelem. Ça n'a pas été le cas depuis sa finale à Wimbledon. Bon début de saison, surfant encore sur la vague de la Coupe Davis. Il a semblé engagé hier. J'ai regardé des bribes du match. Engagé, en contrôle et revenu ouais. Plus fort lors du deuxième set aussi. Je m'attends à grande chose de Chapeau. Peut-être que je vais être déçu parce que je l'ai mis très loin dans mon tableau, là, encore de finale pour ne pas le nommer. Vivement un retour de Chapeau, puis je pense que ce serait bon pour le tennis canadien. Oui, il y a Félix, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un gars top 20 qui s'appelle Denis Shapovalov, puis il est capable de faire de grandes choses.
Et qui a connu un bon tournoi avant les internationaux d'Australie. Isabelle, tu t'attends à quoi de Chapeau? Est-ce que tu penses que c'est l'année de, entre guillemets, de la renaissance pour Chapeau après une année un peu plus en dentis, disons-le, comme ça, l'année passée?
Ben, je suis un peu d'accord avec Nico. Je pense que Chapeau, on peut s'attendre à un bon tournoi de sa part. En tout cas, moi, de ce que j'ai vu hier, c'est sûr que j'ai pas tout vu la partie au complet, mais il semble être, ancré. On dirait qu'il y a, il y a une belle énergie. On le sent qu'il a envie. Je ne sais pas, moi, je crois que ça va être une bonne année pour lui. Puis on le sait quand ça commence bien, tout va jouer dans ça. On le sait, tous les athlètes, là, c'est 70% de la performance, ça, c'est là. Mais je pense qu'il est bien. Donc, la Coupe Davis va y avoir fait du bien d'avoir complété ensemble avec l'équipe. Je pense que oui, ça va être une bonne année pour lui. Puis pour ce tournoi-là, je m'attends à ce qu'il se rende assez loin, moi aussi.
Ce que j'ai aimé de Chapeau hier, Hugues, c'est que, bon, il a connu un petit passage à vide là, à la fin du deuxième set et au début du troisième set. Et il était brisé dans le troisième set et il est revenu de l'arrière et il n'a plus jamais regarder en arrière. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il est là pour se battre.
Oui. Moi, ce que j'aime du Chapeau nouveau, là, parce que je pense effectivement qu'il y a eu le début de saison, mi-saison difficile l'an passé, instabilité au niveau des coachs, instabilité personnelle, tout ça. Et ce qu'on voit maintenant, il est beaucoup plus, Isabelle a dit ancré, je pense que c'est le bon mot. Il est en contrôle de ce qui se passe, en contrôle de ses émotions aussi, parce que ses émotions peuvent être très payantes pour lui, mais des fois, elles pouvaient jouer contre lui. Et là, il maîtrise beaucoup mieux, on dirait, ce qui se passe au niveau émotif. C'est un match qu'il a bien contrôlé. Bien, je pense que ce 4-7, c'est une belle victoire contre Lajovic, qui est un très bon joueur aussi. Moi aussi, j'ai très hâte de voir la saison 2023 de Shapovalov et je pense qu'il va repartir à la conquête du top 15. Là. Il est 20e en ce moment, mais ça augure bien pour Denis Shapovalov.
Le seul problème dans son cas, c'est le tableau. Il est vraiment, vraiment compliqué, son tableau. Bon, au deuxième tour, ce sera Taro Daniel. Il est 2-0 contre Taro Daniel.
Ça devrait aller.
Mais après ça, messieurs et Isabelle, c'est Hubert Hurkacz, possiblement. Il est 1-3 contre Hubert Hurkacz. S'il fallait qu'il batte Hurkacz, t'as Medvedev dans les pattes. Il a une fiche déficitaire également contre Medvedev. Et Rafael Nadal en quart de finale. Ce sera pas facile pour Shapovalov d'aller loin dans ce tournoi-là. Mais qui sait, c'est un joueur qui peut battre tous les grands joueurs. Enfin, on verra. Moi, j'ai une question pour vous, messieurs. Ça m'a marqué hier. Et messieurs, Isabelle, je vais tellement m'habituer un jour. Je vais commencer avec toi, Isabelle. Je sais pas si tu as remarqué hier, Nadal, Shapovalov jouait avec un chandail tout blanc de type Wimbledon. Tu sais, presque rien de...
On me regarde les shirts.
C'est ça, c'était pour contrebalancer l'effet des shorts psychédéliques.
Puis c'était la bonne combinaison selon moi, parce que bon...
Moi, je suis assez d'accord avec ça. J'allais dire, est-ce que vous avez vu le outfit de Tiafoe qui, lui, l'a porté au complet, le saut psychédélique?
Oui. Ben, vous savez, c'est quoi, hein? Nike a voulu représenter une carte topographique avec, c'est pas des...
Ah, c'est vrai?
Des
c'était pas des blagues que tu disais?
Non, c'est pas des blagues, c'est vraiment des cartes topographiques. Tandis que du côté d'Adidas, on est vraiment plus dans une inspiration pour la Terre, là, tu sais, les filtreurs naturels de la Terre, du CO2. Donc, on voit vraiment les couleurs. Puis cette année, en 2023, la couleur de l'année, c'est un Viva Magenta qu'on voit d'ailleurs sur les deux compagnies, là.
En tout cas, toi, Nico, qui est le plus conservateur. J'allais dire, toi, qui est le plus conservateur de toute notre gang, tu n'as pas dû triper sur l'outfit.
J'ai pas détesté, honnêtement. Je trouvais l'outfit de Bianca très joli. Honnêtement, j'ai bien aimé les couleurs. L'Australie, c'est ça. Hein? Tu sais, peut-être que Roland Garros, c'est bizarre, mais Australie, je trouve que ça va quand même bien. Oui. Puis pour ce qui est du chandail blanc, du chapeau, là, tu sais, je parlais à Alexis la semaine passée, puis il me disait qu'en Australie, ils sont en pleine canicule. C'est extrêmement chaud. On parle de 35 degrés Celsius en fin d'après-midi. Donc, peut-être que pour Chapeau, qui est un gars qui a la grosse goutte assez facilement, c'est peut-être assez avantageux d'avoir un chandail tout blanc.
Mais je veux juste faire un petit point sur les outfits, la gang. Il y a apparemment beaucoup moins de joueurs commandités cette année. Nike a coupé des coûts, donc il y a moins de joueurs, il y a moins de lignes aussi, donc ce qui fait que plusieurs joueurs et joueuses se retrouvent avec la même collection, ce qui est un peu dommage. Moi, c'est pour ça que j'ai aimé ce qu'a fait Tiafoe. Il est allé à fond, donc lui, il a joué la totale avec le sleeveless shirt sur le print topographique dont Isabelle parlait. Mais je trouve ça un peu dommage de cette uniformité quand même au niveau des collections, qui fait que souvent des joueurs vont se retrouver à jouer un contre l'autre avec le même kit. Donc, quand tu vois Andrescu et Raducanu, par exemple, ils avaient exactement le même ensemble hier. C'est un petit peu dommage, là, mais il se passe quelque chose au niveau, justement, des grands manufacturiers en ce moment. Là. Et ça, c'est un enjeu pour le tennis aussi, le fait que les adversaires peuvent se retrouver habillés pareil. C'est un peu bizarre.
Mais ça fait longtemps que Nike particulièrement utilise cette stratégie-là où on a un ou deux joueurs différents. Oui. Ça a été longtemps Nadal et Federer, les tops. Exact. Et le reste, c'est tout le monde pareil. C'était le cas dans le temps d'Eugénie. Elle n'avait pas de ligne particulière. Non. Je pense que Sharapova avait une ligne particulière. Serena avait peut-être une ligne particulière, mais ça fait longtemps qu'on utilise cette stratégie.
Il y avait des lignes neutres aussi. Fait que tu avais les deux ou trois champions, généralement deux, tu as raison. C'était soit Federer ou Nadal. Puis après, tu avais une ligne neutre, puis tu pouvais piger là-dedans après si tu n'avais pas une ligne conduit pour toi.
Mais la femme en moi est allée magasiner, puis il y a différentes options. Là, on a vu, mais à travers les deux semaines, je pense qu'on va voir de l'évolution peut-être pour certains joueurs.
En tout cas, j'ai l'impression qu'hier, Chapeau, lui, il a regardé le chandail et il a fait « Nope, je vais mettre le blanc. » Ça a été mon feeling. Hey, on ne perdra pas trop de temps là-dessus parce qu'on a vraiment encore beaucoup de sujets à parler, certains résultats qui auront marqué la journée d'hier. Bianca Andreescu, Nico, c'est quand même une bonne entrée en matière. Moi, j'ai aimé ce que j'ai vu. De l'agressivité et surtout, elle était à l'aise sur le terrain. Pas de petites blessures, pas de... Bon, j'ai trouvé que c'est une entrée en matière rassurante.
Oui, puis c'est ce qu'on se disait dans notre conversation hier, elle est en contrôle, Bianca, pour un début de saison comme ça, elle qui n'a pas joué énormément depuis le début de l'année, même voire la fin de l'année dernière, contre Bouchkova, quand même 25e tête de série, elle est en contrôle, j'ai vu des bribes du match, évidemment, en contrôle, agressive, elle avait une belle palette de jeu aussi, plusieurs amortis coupés, tant du revers que du coup droit, c'est encourageant pour Bianca Andreescu, tant mieux si elle peut faire un bout de chemin en Australie, simplement pour lui redonner un peu de confiance, là, parce que ça fait longtemps qu'elle n'a pas joué en Grand Chelem. Ce serait vraiment chouette là, de la voir aller. Puis elle a l'air aussi, on en parle de plus en plus. À chaque fois qu'on parle de Bianca, on en parle. Elle a l'air saine d'esprit. Elle a l'air contente de jouer au tennis. Puis on le répète, jamais assez. Pour Bianca, c'est l'essentiel.
Hugues, rassuré par ce que tu as vu hier.
Quel beau match. Tout en créativité. Elle dictait les échanges. Elle a retrouvé un de ses anciens entraîneurs, Christophe Lambert. Et c'est pas l'acteur de cinéma, je le dis tout de suite. Avec qui, apparemment, elle est très à l'aise. Mais moi, j'ai beaucoup aimé son attitude hier. Elle était conquérante, tout en contrôle. C'est très prometteur pour elle. Elle a dominé le match hier.
Et semble-t-il que les balles de l'Australian Open, c'est ce que... Nadal disait, c'est que, bon, c'est une balle qui sert mieux ceux qui frappent un peu plus à plat. Et si je ne me trompe pas, Bianca n'est pas celle qui joue avec le plus d'effet. Est-ce que je me trompe, Hugues?
Effectivement. Elle aime bien frapper à plat, mais elle varie beaucoup. Elle va faire une balle haute, un lob, à un moment donné, elle va jouer sur les effets, elle va jouer sur les vitesses. Et je pense que ce genre de balle-là pouvait bien lui convenir aussi. C'est une joueuse qui joue très en puissance aussi, évidemment.
Hier, Lamorti a donné sûrement des mots de tête à Bouskova. Au prochain tour, messieurs, ce sera Buxa qui est 100e mondial. Elle n'a jamais joué contre Bianca Andreescu. Ça devrait passer. Mais au troisième tour, ce sera possiblement Iga Swiatek.
Ouais.
Tough draw d'une certaine manière. Bon, on lui souhaite tous un long tournoi. Avec ce que vous avez vu hier, est-ce qu'elle peut passer Swiatek? Nico, je commence avec toi.
Ce qui me rassure, c'est que récemment, Jessica Pegula a battu Swiatek. Et le style de jeu de Pegula s'apparente drôlement à celui d'Andreescu. Oui. Sur dur, on sait, Swiatek, elle est bonne partout. Elle a gagné un US Open. Mais il y a quand même encore des soupçons pour une fille de 21 ans qui continue à se développer. Oui, qui est la meilleure joueuse au monde, mais qui a encore de l'apprentissage à faire. Elle sort justement d'une défaite contre Pegula. Je le répète, elles ont un jeu de style similaire. Ça peut être avantageux pour Bianca Andreescu. Parce qu'il faut se rappeler, là, Bianca aussi un grand chelem. Après tout, c'est une championne, Bianca. Elle sait comment gagner. Elle trouve le moyen de le faire. Puis contre Swiatek, oui, bon, là, dans mon tableau, j'ai mis que Swiatek l'emportait. Mais ce ne sera pas simple. Ce ne sera pas une balade dans le parc si les deux devaient s'affronter. C'est dommage là, que les deux s'affrontent si tôt dans le tableau, mais je ne vendrai pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué dans ce duel-là.
Hugues, est-ce que Bianca peut passer le troisième tour?
Bon, elle joue largement au-dessus de son classement de 43e en ce moment. Elle a battu la 25e favorite hier. Elle joue largement au-dessus. Moi, je vous dis attention à Bianca pour toutes les joueuses du tableau, incluant Iga Swiatek. Donc, je ne dis pas qu'elle va la battre, là, mais je pense qu'elle peut y faire tout un match et pourquoi pas un upset au troisième tour. Donc, j'ai beaucoup confiance en ce que j'ai vu de Bianca Andreescu hier.
Ouais, en tout cas, ça va être intéressant à voir dans le cas de Bianca. Si elle peut passer Swiatek, ben là, on va pouvoir commencer à rêver. Elle n'a pas un tableau facile quand même. Là. Le quatrième tour, ça serait peut-être une Danielle Collins. Là. D'ailleurs, on parlait de joueuse non commanditée. Elle, c'est comme une fondation là, qu'elle a, mais elle n'a pas une marque de linge. Et c'est impressionnant parce qu'elle a quand même fait des bons résultats. Elle aurait un Coco Gauff, une Pegula sur son parcours également. Là. Ben écoutez, c'est pour ça que c'est des grands chelems, mais c'est pas des tableaux avantageux. Rapidement, un mot sur Bianca. Isabelle?
Bien, moi, Bianca m'a semblé, c'est ça, en forme physiquement et mentalement. Et on sait comment elle peut aller jouer dans la tête de ses adversaires. Ça a été sa force quand la grande année avant qu'elle soit blessée. Et s'il y a quelqu'un qui peut déstabiliser justement la numéro un mondiale, c'est Bianca. Donc moi, si elle continue cette lancée-là, si elle continue à être en santé physiquement et mentalement, elle peut se rendre loin puis elle peut aller au bout de toutes les joueuses. Parce que je pense pas qu'il y a 100%. Une joueuse présentement qui domine le tableau, à part, bon, les gars, mais quand même, ça a été une grosse année. Être encore jeune, effectivement, on ne sait pas ce qui peut se passer cette année. C'est l'année qu'elle doit remplir. Là. C'est une grosse chaussure là, cette année. Il faut qu'elle continue sur la même lancée. Fait que pourquoi pas Bianca qui pourrait venir jouer la trouble fête?
Si elle peut être en santé, je suis convaincu qu'il y aura des résultats dans le cas de Bianca Andreescu. Parlant de joueuses canadiennes, il y en a une autre qui est en action. Rebecca Marino, Hugues peut dire mission accomplie parce qu'elle était dans le tableau principal directement à cause de son classement. Cela dit, c'est quand même une défaite au premier tour là, pour Rebecca après un beau troisième tour aux États-Unis l'année passée.
Ouais, j'aurais aimé qu'elle aille chercher un set quand même. Je suis un petit peu déçu du score, mais je pense qu'on va avoir une année comme ça avec Rebecca. Je pense qu'elle va rester dans le top 100. Elle est autour de la 65e position en ce moment. C'était pas un mauvais match, mais bon, j'aurais aimé l'avoir passé un tour ou deux, mais je pense que ça va être le rythme de la saison. Elle va être dans les grands tableaux des WTA 1000 et des grands chelems. On va l'avoir gagné un tour ou deux par-ci, par-là, et c'est très bien. Je pense que l'année de son retour, c'était 2022. 2023 risque d'être moins en ascension fulgurante. Là.
C'est plus facile de monter que de rester. Ça, c'est certain. Nicolas Richard, Luzin, ou Zin Lou, c'est quand même une fille du top 100 également. Es-tu déçu de ne pas voir Rebecca faire au moins un autre tour?
Ben, déçu pour mon pool, parce que je l'avais mis en demi-finale, Rebecca Marie-Molon-Sulbach.
Mais quelle confiance il a!
Ça aurait été, pour vrai les gars, Isabelle, ça aurait été difficile là, pour Bianca. Oui, elle aurait fait peut-être un tour, mais après ça, on regarde son tableau, ça aurait été Teichmann. Sinon, ça aurait été Sakkari. Après, peut-être Azarenka. Les espoirs étaient très, très minces là, pour Rebecca Marino. Mais tu l'as dit, Alex, le simple fait qu'elle puisse disputer le tournoi du Grand Chelem sans passer par les tours de qualification, c'est déjà une énorme victoire. Puis Hugues l'a dit, devrait quand même se faufiler dans les quatre Grands Chelems en raison de son classement. Donc, c'est déjà des bonnes nouvelles pour Rebecca Marino.
Et la bourse aussi que tu as au premier tour, là, déjà, c'est
100 000 $ en passant, il faut le dire. Hein. Le premier tour du Australian cette année, c'est 100 000 $ canadiens, ce qui n'est pas négligeable. Hein.
Ce qui est la moitié d'une semaine de Nico à la presse.
Ouais.
Bon, là, on a eu les joueurs qui ont joué hier. Regardons rapidement ce qui s'en vient du côté de Leila Annie Fernandez parce que, bon, ce ne sera pas nécessairement si simple que ça pour Leila contre Cornet au premier tour, Hugues.
Oui, la vétérane Alizée Cornet, française, compétitrice acharnée. Ça va être un match difficile. Gros premier tour pour Leila, mais encore une fois, je pense que Leila va jouer au-dessus de son classement, comme Bianca, et elle va aller chercher cette victoire-là à l'arraché ce soir. Notant qu'elle a un nouveau coach. Finalement, son papa, Jorge, a trouvé un coach à la hauteur de leurs ambitions, avec qui ils ont un bon fit aussi personnel, apparemment. Donc, je pense que Leila voudra bien faire particulièrement aussi pour ça ce soir. Donc, c'est une nouvelle étape qui commence aussi pour Leila cette année.
Nico, c'est quand même un premier tour complexe parce que, bon, Cornet, elle a fait les quarts de finale l'année passée en Australie, ouais. Alors ça ne sera pas facile.
Ouais. Puis c'est bizarre puis c'est étrange parce qu'on dirait que son milieu de tableau est plus simple que son début de tableau. Parce que là, elle frappe Cornet, qui est toute une compétitrice. Ouais, ensuite, raison. Caroline Garcia, qui était possiblement l'une des deux meilleures joueuses l'année dernière. Puis si elle parvient à passer à travers les deux françaises, après ça, c'est Bigou, Bronzetti,
Alexandrova.
C'est peut-être comme Tavet ultimement, c'est des joueurs que Leila est capable de battre. Ouais. C'est pour ça que je dis que si elle passe les deux premiers tours, après ça, les possibilités sont infinies pour Leila Fernandez. Donc, les deux premiers tours, match important, puis ensuite, si elle réussit à le faire, elle peut rêver d'aller jusqu'au bout.
Oui, exact. Ben, tu fais bien de souligner qu'elle a un tableau un peu particulier parce que ses deux premiers tours sont peut-être plus complexes que les deux, trois tours.
Son deuxième tour, c'est une demi-finale. T'es contre une Garcia, c'est à peu près ça, tu sais.
Ben, t'as 100% raison, t'as 100% raison. As-tu des attentes, toi, Isabelle, pour Leila Annie Fernandez? Bon, tu t'attends à quoi pour ce tournoi-là?
Bien, c'est sûr qu'on a toujours des attentes parce que c'est une joueuse, une personne qu'on s'est attachée hein, avec. Bon, l'année dernière, malheureusement, ça n'a pas été l'année qu'elle pouvait continuer à cause de sa blessure. Mais oui, c'est sûr que j'ai hâte de la voir en action. J'ai hâte de voir ce qu'elle va nous offrir, dans quelle forme physique elle est, mentale aussi. Donc, je suis un peu d'accord avec tout le monde, on verra. Mais tu sais, des fois, quand on a des gros matchs, puis on se retrouve avec des adversaires un peu plus faciles ou à notre portée, faut pas baisser notre travail. Des fois, c'est le danger. Elle est encore quand même jeune. On va voir si l'expérience va lui permettre, avec son nouveau coach aussi, de pouvoir passer au travers. Fait que j'ai bien hâte de voir, mais je m'attends quand même à ce qu'elle rende. Qu'elle soit là en début de deuxième semaine, j'aimerais ça.
Ben, c'est définitivement possible. On va faire une courte pause et au retour, on parle d'un raz-de-marée médiatique, la série Breakpoint de Netflix. Et on en parle avec la directrice du marketing, Julie Gravel.
Vous cherchez une escapade de dernière minute? Profitez de 35% de rabais sur les magnifiques suites de l'Hôtel Montville. Disponible pour un temps limité seulement, rendez-vous sur hotelmontville.com pour réserver votre séjour au cœur des festivités de Montréal. La Saint-Valentin approche. Préparez un séjour romantique parfait dans les magnifiques suites vitrées de l'Hôtel Montville. Rendez-vous sur hotelmontville.com pour découvrir l'offre spéciale qui inclut une nuitée, un souper 3 services pour 2 personnes, un petit déjeuner pour 2, une boîte de chocolat, ballon et un départ tardif.
De retour au Radio Podcast sur la ligne. Là, mesdames et messieurs, je suis bien content de faire ce bloc-là parce que il y a eu une espèce de raz-de-marée médiatique dans le monde du tennis, je dirais depuis plusieurs semaines, parce qu'on l'attendait depuis un bon petit bout, en fait, depuis un an ou presque, parce que ça fait depuis un an qu'on sait qu'il va y avoir des caméras, qu'il y avait des caméras de Netflix un peu partout autour du monde pour la série Breakpoint. Et pour en parler, Nico, Hugues et Isabelle, on reçoit qui de mieux que Julie Gravel, la directrice du marketing de Tennis Canada. Merci Julie de te joindre à nous et d'accepter de venir jaser un peu avec nous.
Ça fait extrêmement plaisir, j'ai hâte qu'on s'en parle.
Écoute, on va commencer rapidement. Là. Je veux votre impression générale, puis on décortiquera une couple de trucs après. Isabelle, je commence avec toi. Ton feeling général sur Breakpoint, la série qui suit dans les coulisses le monde du tennis, qui est le même producteur que Drive to Survive là, de la Formule 1.
Mais moi, j'ai adoré. Moi, je l'ai dévoré. Là, j'attends les prochains épisodes qui vont sortir parce que, bon, je suis une amateur de tennis, mais je ne suis pas une experte, on s'entend. Bon, je joue, je regarde. J'ai aimé revisiter ces parties-là où ce qu'on a vraiment le point de vue de l'athlète, d'apprendre à découvrir. Il y a des joueuses que je ne connaissais pas. Je les ai vues en action, mais j'ai aimé les découvrir un peu plus. Je me suis liée comme d'amour avec certaines d'entre elles, d'apprendre aussi quand ils décortiquent. J'ai vu à Indian Wells le match de Fritz, puis là, il nous explique qu'est-ce qu'il vivait à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Moi, j'aime ça. Je trouve que c'est humain. On va dans... C'est ça. Pas juste ça. Hans Jabbar, quand elle explique qu'elle voudrait avoir des enfants, mais c'est une bonne question à se poser. Parce qu'en tant qu'athlète féminine, on le sait, Naomi Osaka, elle a fait forfait pour sa saison. Moi, ça me parle.
Ouais, non. Il y a un côté très... je disais dans les coulisses, mais humain aussi. Ça nous permet de voir beaucoup les humains derrière ça. Je pense notamment au passage sur Badosa. Là, je ne révélerai pas tout pour que le monde écoute, là, mais on est allé dans des endroits où les athlètes, de façon générale, ne vont à peu près jamais, en tout cas pas devant des caméras. Nico, toi, tu as écrit un article avant la série. C'était quoi ton appréhension, toi, de cette série-là?
Bien, ce qui m'intéressait à prime abord, c'est le processus de sélection. Parce que certains joueurs, certaines joueuses qui sont dans le documentaire, qui sont mises en vedette, puis j'ai demandé aux producteurs pourquoi ces joueurs-là. Bien, eux, leur explication, c'est qu'ils sont assis avec les gens de l'ATP, les gens de la WTA et les directeurs des quatre grands chelems. Donc, ça, à prime abord, je trouve que c'est un bel exploit d'avoir réuni tous ces gens-là autour de la même table. Ils ont fait une très grande liste. Environ une centaine de joueurs sont assis avec chacun d'entre eux. Ils ont dit, veux-tu être dans le projet? Oui. Non, peut-être. Finalement, on a une liste qui, je trouve, est extraordinaire. On a parlé avec Hugues, justement, dans cet article-là. Il y a une cassure entre l'avant et l'après. Puis si, je pense que Hugues, là, c'est le prochain point qu'il va apporter. On ne parle pas du Big Three. Il n'y a aucune vedette. Il n'y a pas Djoko, il n'y a pas Nadal, il n'y a pas Federer. Le seul Nadal, ou presque, c'est Tony Nadal qui est dans le documentaire avec Félix. Mais on met l'accent sur Berrettini, sur Casper Ruud, sur Taylor Fritz, Paolo Badosa, qui sont les joueurs d'avenir, les étoiles de demain, qui sont pas mal aussi là, en ce moment. Mais c'est ce qui m'intéressait, moi, pour ma part, dans ce documentaire.
Oui, il y a des choix intéressants dans les histoires qu'on a suivies. Et ça, j'avoue que honnêtement, comparé à la F1, c'était une chose vraiment difficile à faire parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup plus d'histoires. Et justement, bon, Hugues et Julie, c'est votre département, le marketing, c'est vraiment un gros coup de marketing pour le tennis. Ça, c'est 100% sûr. Hugues, pensez quoi ton premier feeling de la série, d'abord comme amateur de tennis, puis après ça comme marketeur?
Premièrement, j'avais très hâte de la voir. Ça fait des semaines, des mois que je l'attendais. J'ai répondu aux questions de Nico vendredi ou jeudi avant de voir la série. Donc, j'avais vraiment mon œil marketeur et mon œil, OK, quel impact a eu Drive to Survive sur la F1 puis qu'est-ce que Breakpoint pourra avoir sur le tennis. Donc, j'avais ça comme porte d'entrée d'un point de vue marketing. Après, j'avais l'œil du téléspectateur qui avait été captivé aussi par Drive to Survive. Donc, mes attentes étaient extrêmement hautes. Ma première impression, je vais commencer par l'œil du téléspectateur. Bon, très belle production. C'est une production box to box. Là, c'est eux qui ont fait Drive to Survive. C'est vraiment très beau. C'est vraiment très bien fait. Mm-hmm. Je pense que la sélection des joueurs est intéressante aussi. Mais la première réaction que j'ai eue après avoir vu trois épisodes, puis je vous l'ai écrit sur le fil ce week-end, c'est ça n'aura pas le même effet que Drive to Survive.
Non, je suis d'accord.
On n'a pas eu le même effet. C'était pas captivant, semaine après semaine, cette espèce de build-up qui fait que tu t'es attaché à ce sport-là. Je ne sens pas qu'on aura cette même étincelle qu'on a eue au niveau du tennis que pour la F1 avec Drive to Survive.
Julie, tu es d'accord avec ce que Hugues disait?
Oui, je suis d'accord, mais il faut se rappeler que le but premier vraiment de ce projet-là, c'est d'aller chercher un nouveau public. Puis moi, contrairement à toi, justement, j'étais un peu sceptique parce que les attentes, justement, étaient super hautes avec Drive to Survive et le succès que ça a connu. J'ai lu énormément de critiques des experts de tennis. Je pense qu'ils ont été très sévères. Oui. Donc, mes attentes étaient quand même relativement basses. Mais justement, quand j'ai commencé à regarder ces 5 épisodes-là, j'avais vraiment pas mes lunettes, évidemment, d'experte de tennis, là, disons-le, de cette façon-là, mais vraiment comme, bon, tu sais, si je suis monsieur, madame, tout le monde, exact. J'essaie de mettre justement les lunettes d'un nouveau public. Puis j'ai été agréablement surprise. je pense justement, puis là, on peut le décortiquer, mais je pense qu'Isabelle l'a touché, l'émission est à son mieux quand on parle aussi de la santé mentale, qu'est-ce que ça représente justement, cette pression-là que certains athlètes peuvent vivre, qu'on n'a pas nécessairement accès dans le quotidien, dans l'espèce de saison de tennis qu'on peut avoir. C'est très focusé sur les résultats. Mm-hmm. Là, on focus un petit peu plus sur le côté humain, puis j'ai eu des super belles découvertes. Oui, avec 11, Taylor Fritz, respect maintenant total pour cet athlète-là. Donc, je pense justement, tu sais, là, évidemment, pour mon côté fan de tennis, mais vraiment pour le nouveau public, je pense qu'il y a vraiment quelque chose là-dedans. Après ça, je pense qu'on le tennis est un petit peu victime de sa politesse, si je peux le dire, de cette façon-là. Drive to Survive, on est plutôt dans les...
confrontation à certains moments.
Confrontation, les petits coups de coude qui se passent dans les coulisses. Le tennis n'aura pas ça. On est un petit peu plus poli, un petit peu plus dans le respect. Donc, je pense que là, ces lignes-là, ces histoires-là n'ont peut-être pas eu lieu. Mais je pense quand même que mission accomplie peut-être pour aller chercher un nouveau public.
J'ai l'impression que le casual fan va y trouver son compte quand même. Parce qu'effectivement, on apprend des choses, le côté solitude sur le circuit, le fait que pour gagner de l'argent, tu dois gagner des tours, que c'est pas simple. Et j'ai beaucoup aimé les hauts et les bas aussi au niveau mental, justement, des victoires et des défaites aussi, à quel point les joueurs sont brisés après une défaite. Et ils sont seuls là-dedans, ou s'ils ont leur chum pas loin, ben ça peut aider, ou leur blonde, mais ça c'est une bonne chose. Mais encore une fois, je pense que la sélection des joueurs a été excellente, puis j'ai hâte de voir la deuxième partie. Je me projette déjà vers les 5 épisodes du mois de juin, parce que ils savaient pas au mois de février 2022 ce que Kyrgios serait comme année. Il était finaliste de Wimbledon. Donc là, tu as une sacrée histoire qui va se développer durant l'année.
Tomljanovic
qui sort Serena, qui fait le dernier match de sa carrière à Wimbledon.
C'est pas pour rien qu'ils l'ont build-upé dès le début.
Voilà,
c'est
exact. Et Félix qui a une bonne saison.
Il savait qu'à la fin, ça s'en venait.
Exact. Mais en même temps, Kyrgios qui était l'épisode de lancement, parce que c'est le gars le plus flamboyant ou le plus controversé du circuit au niveau du début de la saison, c'est un excellent choix. Moi, j'ai quand même pas appris tant que ça sur Nick Kyrgios dans le premier épisode. Fait que je reste encore entre les deux. Moi, si j'avais à mettre une cote, là, je dirais que c'est un 7 sur 10. Puis j'étais prêt à aimer pour mettre un 10 sur 10 quand j'ai commencé à l'écouter. Mais j'ai mon biais de joueur qui suit ça 365 jours par année. Donc, c'est plus compliqué de venir m'exciter, je dirais, avec ce que j'ai vu. Puis, dernier truc, l'histoire du Australian Open, il y a un an, parce qu'on passe beaucoup de temps sur les deux premiers épisodes, c'était Nadal l'an passé. Tu sais, on n'a pas pu en parler pour les raisons que c'est pas lui qui est la vedette de la série, je comprends bien, mais on a manqué un peu cet événement incroyable qui est la remontée que Nadal a fait dans la finale de l'Australian l'an passé.
Mais attends,
donc, on est un peu sur une histoire parallèle. T'sais.
Dans le cas, si je me fie à ce que Drive to Survive fait, c'est pas rare que, bon, ils vont revenir dans le temps parce que, bon, ils suivent un athlète principalement. Alors, moi, je pense que, bon, Roland-Garros, là, quand ce sera le gros Roland-Garros, on va revenir un peu plus sur l'Australian Open. Nico, tu l'as ajouté quelque chose?
En juin, d'ailleurs. C'est pour ça que ça revient en juin.
Peut-être, mais le défi aussi que Box to Box a eu, puis je pense, Nico, je sais pas si l'équipe t'en a fait écho, après l'Australian Open, l'équipe se sont assis avec la WTA puis l'ATP à Indian Wells pour dire « OK, là, aidez-nous justement à bien cibler les histoires parce qu'il y en a un paquet. » On oublie que Barty, ça aurait pu être l'histoire assez fracassante aussi du dernier Australian Open. L'Australienne qui, depuis, là, je ne sais pas les chiffres, là, mais depuis je ne sais pas combien de temps, c'est une Australienne qui gagne le Grand Chelem local, qui se retire après ça du monde du tennis 4 mois plus tard. Ça aurait pu être évidemment comme une grande histoire. Donc, je sais aussi qu'il y a eu des défis à ce niveau-là de la boîte de production.
C'est sûr, Nico.
Ben, d'abord, pour répondre à la question de ce que j'ai compris, avant chaque début de tournoi du Grand Chelem, les producteurs s'assoyaient avec les gens du Grand Chelem en disant qui vous voulez qu'on suive. Le tournoi avait lieu, puis après ça, en rétroaction, ils se disaient est-ce qu'on a bien fait de les suivre, sinon, comment on peut ajuster le tir. Fait que ça, de ce que j'ai compris, c'est comme ça que ça se passait. Mais je veux revenir sur le point des rivalités d'une manière plus globale, parce que je pense aussi que le maillon faible, il était là dès le départ, avec la sélection des joueurs qu'on a choisis. Félix, Kasperud, Berrettini. Par exemple, ce ne sont pas, je pense, les joueurs les plus polarisants. Puis ce qui a fait le succès de Drive to Survive, c'est qu'on a dépeint des bons et des méchants. Alex, tu le sais, dans le storytelling, c'est ce qui rapporte. Hugues, pareil. Max Verstappen est un méchant, on avait Charles Leclerc qui était un bon. Maintenant, je me projette sur le documentaire sur le golf, Full Swing, en plein dans la controverse du Live Golf. Donc, il y a les bons, puis il y a les méchants. Dans la série de tennis, y a-t-il cette accroche qui fait que les gens ont envie de revenir et de détester des joueurs? Je ne penserais pas, puis c'est peut-être le maillon faible, comme vous l'avez expliqué.
Je vais répondre à ce que tu vas dire, mais Isabelle, tu voulais ajouter quelque chose avant?
Bien, tu vois, moi, je n'ai pas vu Drive to Survive. Donc, j'ai aucun... Moi, quand j'ai regardé cette série-là, je me suis dit, est-ce que c'est une série qui peut faire aimer le tennis et s'intéresser au tennis, d'aller regarder des parties? Et moi, la réponse, c'est oui. Puis quand j'en ai parlé dans mon entourage, j'ai des gens qui sont des amateurs de tennis, mais amateurs là, qui regardent les Canadiens, qui sont pas, qui se lèvent pas la nuit en insomnie à regarder le match comme j'ai fait cette nuit. Puis pourtant, moi, je ne suis pas la plus... Bien... Il arrive que les 6 qui aiment disent « Ah, je vais apprendre à découvrir des nouveaux joueurs à aimer. » Pas nécessairement à détester, mais à aimer. Puis on a besoin de ça. C'est sûr que ça peut être polarisant. Kyrgios en est un. Maintenant, je pense qu'on va détester les joueurs qui vont affronter les joueurs qu'on s'approprie, qu'on aime, qu'on décide de suivre. T'es-tu obligé d'être un grand vilain pour pouvoir faire ça? Je suis pas sûre. Puis, moi, tu vois, c'est ça, j'aime aussi les commentaires qu'on ramène de Chris Evert, de Andy Roddick. Quand elle dit, qu'elle parle d'une des joueuses, puis elle dit, il faut être si bitchy pour être une bonne athlète. Ouais. Je trouve ça intéressant. Il en ramène dans ça. Fait que, non, moi, je pense qu'on doit y aller, continuer. Puis Nadal, on en parle quand même. On n'a pas le choix on ne peut pas faire abstraction de Nadal dans le documentaire, bien que c'est un personnage secondaire et pas principal, puis ça fait du bien.
Pour l'instant. Je vais renchérir un peu, Alex, sur ce qu'Isabelle dit. Puis c'est vrai que les commentaires de Andy Roddick, de Sharapova, de Paul Anaconde, qui a coaché Federer, Sampras, Chris Evert, ça ajoute beaucoup à ficeler tout ça puis à comprendre vraiment ce qui se passe. Pour moi, c'est un des points forts.
Moi aussi, je suis 100% d'accord avec ça. Et je trouve que c'est du génie. Et, bon, Julie le disait tout à l'heure, je pense que ça s'adresse peut-être plus à des néophytes ou à un public fan de tennis, mais pas le crinqué de tennis comme nous le casual fan ou le nouveau fan de tennis. Oui. Et Maria Sharapova, Andy Roddick et Chris Evert, par exemple, viennent tellement bien placer certaines situations, comment un joueur peut vivre une chose. Parce que, bon, le joueur dans l'action, lui, le dira peut-être pas. Et ça, on peut rentrer dans la tête des joueurs avec ces informations-là de grands joueurs. Maria Sharapova, Andy Roddick, ça a été deux numéro un mondial des champions de Grand Chelem. Julie, toi, qu'est-ce qui t'a marqué? Parce que tu disais que tes attentes étaient basses. Finalement, tu as été agréablement surprise. Est-ce que tu penses que ça va vraiment donner un boost au tennis, parce qu'on l'a vu, Netflix, ça peut avoir un impact. Ça en a eu un dans le monde de la F1.
Queen's Gambit. Audience TV, vente de billets, notamment.
C'est ce que j'ai hâte de voir, honnêtement, Alexandre, parce que c'est le proof is going to be in the pudding, dans le sens que là, il va avoir trois différents niveaux. Je pense qu'on va pouvoir regarder ça. Au niveau de l'engagement de ces nouvelles personnes-là, je pense que le plus facile, justement, ça va être de voir si on a un accroissement de partisans sur les médias sociaux, que ce soit évidemment au niveau des athlètes, au niveau des circuits et on l'espère évidemment au niveau des événements comme le Miami Banque Nationale. Après ça, est-ce que l'audience télévisuelle va être au rendez-vous? C'est là que je me questionne un peu parce que je trouve que le manquement un peu que la série a, c'est cette espèce de d'engouement autour des matchs de tennis. Je trouve que la séquence est longue parfois. Puis c'est là que je trouve qu'ils n'ont pas nécessairement réussi à bien vendre le sport en tant que tel. Ils ont bien réussi à vendre les personnages, bien réussi à vendre les athlètes. Donc, je pense que justement, à ce niveau-là d'engagement, c'est encore une fois mission accomplie. Au niveau de la télédiffusion, c'est là que j'ai hâte de voir. Puis après ça, au niveau de la vente de billets, là, je pense que je suis assez optimiste à ce niveau-là. Surtout, tu sais, pour l'Omnium Banque Nationale, le timing de la deuxième séquence va être vraiment la clé. Que ça sort en juin, c'est là, évidemment, qu'on a aussi notre pic de campagne marketing. Je vous le dis tout de suite, j'ai déjà aussi changé un peu mes tactiques au niveau de qui qu'on va vouloir mettre de l'avant. Je trouve que On Jabeur, c'est maintenant un no-brainer, évidemment. Donc, c'est là que j'ai hâte de voir, mais je pense que sur certains niveaux, oui, ça va apporter un changement ou du moins cette visibilité-là qu'on manquait.
Julie, est-ce que cette série-là tombe à point pour le tennis canadien? Parce qu'on s'entend, bon, là, on est quand encore au début d'une vague qui va être assez exceptionnelle là, avec la banque de joueurs qu'on a. Alors, si on veut parler à des nouveaux fans de tennis, je veux dire, dans le timing pour développer une base de fans de plus grande au Canada me semble assez impeccable. Je ne sais pas, es-tu d'accord avec ça?
Ouais, je suis extrêmement d'accord avec ça. C'est dur de dire non à ça. Je pense que, en plus, c'est que Félix soit un des rôles principaux, appelons-le comme ça, dans les 5 premiers épisodes, c'est vraiment c'est du bonbon là, pour le tennis canadien.
Je pense qu'ils ont fait un beau travail, en tout cas, pour justement montrer des personnalités. Et c'est tellement difficile à faire comparé à la F1 à cause qu'il y a tellement 100% plus d'histoires. Tu sais, juste dans un tableau, tu as 128 joueurs, tu peux avoir 128 histoires. Là. Alors, quand même, bon, je pense que moi, je vais le regarder puis je vais adorer ça. Je suis convaincu là, parce que tu sais, même si on n'est pas directement le cranky de tennis, le public cible, je pense que ça vaut tellement la peine de l'écouter pour tout ce qu'on voit behind the scene et pour le côté humain. Isabelle, est-ce que tu as hâte d'écouter les 5 prochains épisodes? Est-ce que toi, tu es accroché pour vrai? Là? Y a-t-il quelqu'un, dans le fond, qui a pas vraiment accroché?
Alors, moi, je suis accroché. J'en veux encore déjà, j'ai envie. Puis, mais en même temps, je suis contente qu'on me permette d'attendre parce que je veux suivre aussi le rythme de la saison en cours. Je trouve que c'est une belle façon pour les gens. Bon, là, il y a l'Australian Open présentement, de se ramener, de voir « Ah oui, c'est comme ça, on est dans tout le climat, la fébrilité qui s'installe. » Bon, on commence. Après ça, bon, Indian Wells, puis après ça, on s'en va à Roland-Garros. Moi, je suis en train de planifier. Je m'en vais à Paris, c'est sûr. Il faut que je m'en aille là-bas. Je vais être sur place. Donc, je trouve que c'est bon qu'ils nous fassent attendre pour ça, pour pouvoir suivre le rythme de la saison.
Hugues, accroché, total?
Oui, je suis accroché. De toute façon, je suis un bon public, hein, vous le savez. Mais j'ai surtout hâte de voir la deuxième partie. Parce que, justement, cette sélection très habile qu'ils ont fait avec ces 6 joueurs-là et joueuses ont des belles histoires pour le reste de la saison. Mais je pense que les gens vont s'attacher aussi aux personnages. Et peut-être que ça va prendre un autre axe que Drive to Survive, où tu suivais l'excitation de la saison, semaine après semaine, Grand Prix après Grand Prix. Là, on va suivre des histoires plus personnelles, des joueurs qui sont là pour encore 5 ans, 10 ans. Donc, je pense que c'est peut-être ça qui est le point très smart au niveau de la mise en marché de cette série-là et qui pourrait nous amener une autre saison par la suite. Mais quand même, on est chanceux d'avoir eu Félix dans le 5e épisode. Pour moi, c'est le plus fascinant du lot, surtout la relation avec Tony Nadal dont on n'a pas beaucoup parlé, où là, il a dû faire un choix dans la fameuse rencontre de 3e tour entre Raphaël et Félix. Tu prends pour qui? T'es dans quelle loge? Ouais. Il n'a pas choisi une loge. Il a pris un siège neutre. Mais il y a quand même dit aux médias, je ne peux pas souhaiter que mon neveu perde.
Il l'a choisi.
C'est un peu malaisant à ce moment-là. Et au début du 5e set, vous l'avez vu, il se lève, il sort du central. Il n'a pas pu voir le 5e set. Donc ça, pour moi, c'est un moment, c'est un highlight là, des 5 épisodes.
Ouais, mais en. Puis comme tu disais, Julie, on jabeur, tu sais comment... Déjà, elle est tellement sympathique. Elle avait marqué les esprits à Montréal, d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps. Alors, puis là, ben, elle ajoute à son histoire. Et Isabelle, tu me fais signe aussi, tu me dis que toi, une chose qui t'a marqué, c'est que la chambre de Matteo Berrettini ressemble étrangement à celle de Nicolas Richard.
Ou de ma fille, là, je ne sais pas, là, mais oh boy! C'est aussi bien, c'est tout le temps bien mis, très slick. Ça m'a. Ça démontre qu'ils sont humains. Ça démontre que quand tu arrives derrière, c'est ça. C'est
j'aurais aimé ça, voir la chambre de Nadal. J'ai l'impression que ça serait plutôt très
calme. Ah, les chaussettes bien pliées.
L'avez-vous vu? Félix Auger-Aliassime, quand il fait sa valise, comme quoi tout est bien coordonné, tout est bien organisé. Moi, j'ai remarqué ça, en tout cas.
Oui, oui.
Mais pour en revenir à la chambre, c'est anecdotique, mais en même temps, moi, je suis très fan de ça, de montrer les choses comme elles sont. Ah oui. No game. Moi, si c'est ça, c'est ça. Puis, regarde, c'est correct, ça nous fait sourire, là, je veux dire. Mais je suis très fan de... Je trouve que ça ajoute en termes de crédibilité de dire, ben garde, on vous bullshit pas parce que sinon, on l'aurait ramassé la chambre. Tu sais. Julie, une note sur 10 là, de l'œil de la marketrice de Tennis Canada, une note sur 10 là, de fan, tiens, vas-y donc.
De fan, je pense que de fan, justement, tu sais, de par les réactions que j'ai eues, moi aussi, de mon entourage qui normalement ne regardait pas le tennis, puis qui m'ont texté ce week-end et tout. Donc, je pense que pour ça, je leur donnerais un 8 sur 10 à ce niveau-là. Puis, ben écoute, j'espère qu'ils vont avoir eu des apprentissages. Ils sont en train de tourner justement la deuxième saison cette année. Je pense qu'ils vont avoir des grands apprentissages, puis je pense qu'on peut juste s'attendre à du mieux encore pour l'année prochaine.
Hugues, je te demande ta note sur 10, puis après ça…
Ben, je vous l'ai dit, d'un angle marketing, c'est un C7, d'un angle de casual fan, je mettrais un 8 moi aussi, parce que c'est quand même une très belle série, puis c'est l'envers du décor qu'on ne connaissait pas, c'est la première fois qu'on voit ça de cette manière-là.
Moi, je pense que, en tout cas, je vais y aller de la façon suivante, j'ai résumé ça de la façon suivante, je pense que c'est un must-watch. D'une manière ou d'une autre, si vous aimez un petit peu ou beaucoup le tennis, c'est un must-watch. Mais attendez-vous pas à une, comment dire, drive émotionnelle très, très, très captivante. Je vais dire ça comme ça. En tout cas, du moins dans les 5 premiers épisodes. Peut-être que ça changera pour les autres épisodes. On verra. Rapidement, Julie, j'ai une autre question pour toi parce que, bon, on parle de télé. Il y a une série québécoise qui s'appelle Double Faute Virage à laquelle je pense que vous avez quand même à tout le moins servi de consultant. On voit le logo de Tennis Canada dans les, à moins que ce soit une version différente, là, mais dans le trailer de l'émission. Parle-moi donc de cette émission-là et comment est-ce que vous avez collaboré avec la production?
Oui, c'est plus une collaboration de nos espaces. Il n'y a pas vraiment personne à l'interne qui a été des consultants tennistiques, à vrai dire, là. Mais c'est sûr qu'on, quand ils nous ont approchés pour avoir accès à nos espaces, pour pouvoir tourner pendant l'Omnium Banque Nationale, puis être sûr que ça soit, que ça dépeint la réalité le plus possible, c'est sûr qu'on a dit oui. Au même titre que Breakpoint, je pense qu'on veut que le tennis se soit démocratisé, puis atteindre une nouvelle audience. Donc, c'est sûr qu'on accueillait ce projet-là à bras ouverts. Puis on a eu la chance, nous, de regarder les deux premiers épisodes en exclusivité. Puis j'ai vraiment hâte de voir comment l'histoire va se dérouler, là.
Ouais, ben c'est intéressant parce qu'on suit un joueur de tennis là qui était autrefois près du top 50, qui est un peu entre guillemets un underachiever là dans le monde du tennis, un gars plein de talent et puis que bon on reverra peut-être remonter dans le classement, enfin on verra. Moi je trouvais ça intéressant. Isabelle, as-tu écouté le premier épisode de... Non, tu n'as pas écouté. Pour les gens qui en tout cas le personnage principal, là, puis Julie, tu me diras si tu es d'accord avec moi. Moi, je trouve que c'est un mélange, et là, j'espère que je vais insulter personne là-dedans parce que c'est vraiment pas le cas, de Simon Larose, Marty Fish puis Jay du Temple.
Mais comme 95% de Simon Larose, je pense, là, je pense pas qu'on se cache non plus de cette réalité-là. L'entraîneur aussi, bon, s'appelle Sylvain, a deux filles, s'occupe du programme.
La casquette.
Je veux dire, comme tu sais, faut pas aller chercher trop loin pour voir, il était où ces inspirations-là non plus, là. Mais je pense que justement, tu sais, à ce niveau-là, ils se sont inspirés des histoires qui valent la peine d'être racontées, qui apportent aussi une nouvelle dimension au tennis. Je pense que justement, ça pourrait être un fil conducteur assez intéressant qui va se développer au cours des prochaines semaines.
En tout cas, pour les gens qui ne l'auraient pas écouté, c'est une prémisse assez classique, je dirais, en termes de storytelling, mais c'est visuellement très beau. Et puis, on a fait des belles choses avec l'image, la couleur, il y a même de la musique avec des sons de balles de tennis dedans, là, un peu inspiré de vos promos d'ailleurs, j'ai l'impression, Julie. Mais en tout cas, je pense que ça vaut la peine de l'écouter si vous êtes un fan de tennis québécois. Julie, je te remercie infiniment de t'être joint à nous. Continue ton excellent travail à Tennis Canada. Et puis, ben écoute, tu reviens nous parler, tu le sais, là, quand tu veux, Julie.
Excellent, merci à vous.
Vous cherchez une escapade de dernière minute? Profitez de 35% de rabais sur les magnifiques suites de l'Hôtel Montville. Disponible pour un temps limité seulement, rendez-vous sur hotelmontville.com pour réserver votre séjour au cœur des festivités de Montréal. La Saint-Valentin approche. Préparez un séjour romantique parfait dans les magnifiques suites vitrées de l'Hôtel Montville. Rendez-vous sur hotelmontville.com pour découvrir l'offre spéciale qui inclut une nuitée, un souper 3 services pour 2 personnes, un petit déjeuner pour 2, une boîte de chocolat, ballon et un départ tardif.
Retour sur la ligne, le radio podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale, troisième et dernier bloc de l'émission. Bon, je veux qu'on fasse rapidement, là, on ne passera pas sur les gagnants de la semaine passée parce qu'il y a vraiment trop de matière au niveau de ce qui s'est passé déjà en Australie là, pour le premier tournoi majeur de la saison. Rapidement, Nico, un mot sur Nadal. Tu t'attends à quoi? Il a un tableau compliqué, mais il peut dire mission accomplie après un premier tour réussi.
Nadal, c'est Brady, c'est Woods, c'est Michael Jordan. Tu peux pas gager contre lui. Je prévois quand même un bon bout de chemin pour lui. Je pense pas qu'il puisse défendre son titre là, dans mon tableau. Je mets une défaite en huitième contre Tiafo. On peut juste souhaiter le meilleur pour lui. On le sait, il est blessé. C'est toujours ça le problème avec Rafael Nadal. Quoi qu'il a pris part à plusieurs rendez-vous médiatiques au cours de la semaine, a été occupé là, depuis le début de cette quinzaine, a joué. Ça a été difficile. Tu sais, contre Draper, on s'entend que c'est tout un mm-hmm. C'est un adversaire là, d'entrée de jeu. Même il avait dit avant le début du tournoi, Nadal, on lui avait posé la question, à ton avis, quel joueur va connaître une année à tout casser, un joueur qu'on n'attendait peut-être pas? Il a dit Draper. Et comme de raison, il l'a affronté dès le premier tour. Ça n'a pas été simple, mais pour Nadal, on peut juste assurément une deuxième semaine. Après, lorsqu'on va arriver dans les huitièmes de finale, ce sera plus complexe, je pense, pour lui, dû à son état de santé.
Hugues, rapidement sur Rafael Nadal.
Chaque match qu'il gagne, enfin, encore comme Nico disait, on ne peut jamais parier contre Nadal, mais moi, je croyais que Draper le battrait au premier tour. Ça s'est joint en 4-7. On a vu qu'il est encore un petit peu tendre, Draper. Il y a eu des crampes et tout ça. Ça me rappelle Andy Murray en début de carrière. Mais je pense que Nadal, ça va être difficile là, match après match. Je pense qu'il va atteindre sa limite assez rapidement. Mais encore une fois, il ne cesse de nous surprendre.
Avais-tu osé le faire sortir au premier tour dans ton tableau?
Oui. J'avais pris Draper au premier tour. Il m'a donc un peu surpris parce que, n'oubliez pas qu'il y avait deux matchs de jouer seulement en tournoi préparatoire. Ouais. Il y avait deux défaites déjà. Donc, j'étais un peu inquiet pour son entame de tournoi, mais voilà, il a passé le premier tour.
Et dans les derniers mois, il a perdu plus que peut-être dans toute sa carrière avant. Là. Alors, bon, je te comprends très bien. Bon, rapidement, là, avant qu'on se quitte, je veux votre prédiction de finale. Nico, chez les femmes, tu as quoi comme prédiction? Tu as rempli ton tableau. Tu as quoi comme prédiction de finale?
Au début du tournoi, les gars, vous avez dit deux joueurs à se surveiller. Jessica Pegula et Aryna Sabalenka. Le tableau m'a aidé parce que les deux peuvent s'affronter en finale. Donc, ce sera ma finale avec une victoire de Sabalenka. Pardon.
Ouais, intéressant, Sabalenka, elle est certainement due pour un grand titre et elle a tout l'arsenal pour le faire. Moi, j'ai une finale Coco Gauff, 11 Jabeur. Est-ce que j'ai été influencé par la série Breakpoint? Peut-être, puisqu'on en parle dedans, mais je pense que malheureusement, pour 11 Jabeur, ce sera une autre défaite en finale d'un grand chelem et ce sera Coco Gauff qui remportera finalement son premier grand chelem. Hugues, ta finale du côté des femmes, est-ce que tu l'as pas loin?
Oui, moi j'ai Sabalenka contre Swiatek et avec une première victoire en grand chelem pour Sabalenka.
Ah, intéressant. Donc les deux, vous avez Sabalenka très loin. Nico, chez les hommes, tu as qui comme finale rapidement?
J'avais pas prévu ça, mais avec le tableau de la façon dont tu l'as fait, j'ai Félix en finale contre Novak Djokovic et le Serbe l'emportera une dixième fois en Australie.
Ben, ça voudrait dire qu'il battrait Medvedev au passage. Moi aussi, je l'ai très loin.
Non, Félix, mais en fait, c'est Chapeau qui battrait Medvedev dans mon.
Ben voilà, attention, OK. Ben moi, j'ai... Intéressant. OK. Et Hugues, ta finale masculine?
J'ai Medvedev contre Ruud avec une victoire pour Daniil Medvedev.
Donc, il n'y a personne qui a de vous champion Novak Djokovic.
Oui, je l'ai. Moi. J'ai Djokovic qui bat Félix. Ouais.
OK, tu as Djoko qui bat Félix, excuse-moi.
Exact.
OK. Intéressant. Ben moi, j'ai évidemment Novak Djokovic en finale contre Daniil Medvedev. Ça ne sera pas une finale très originale, mais je pense que... avec
un gros 5h30 de jeu.
ça pourrait être long et intense, mais écoute, Medvedev, il a tellement fait une belle performance l'année passée en Australie. Il va arriver, je pense, avec le couteau entre les dents, lui aussi. Alors, j'ai une finale. Mais je pense que Novak va remporter un 10e titre en Australie, messieurs. Messieurs, c'est déjà la fin de l'émission. Je remercie Isabelle Etier qui était avec nous tout le long de l'émission, sauf pour le tout dernier bloc. Et ben Nicolas Richard, comme c'est la tradition, je te donne le mot de la fin.
Bon tennis Alex, bon tennis Hugues, bon tennis Isabelle, bon tennis tout le monde.